Chers frères et sœurs, chers amis, nous voici donc revenus dans une situation de confinement. Nous voulons prendre cela du bon côté. Mercredi, nous avons eu l'occasion de baptiser 3 bien-aimés à l'église. Leur recherche spirituelle avait commencé avant le confinement, d'après leurs témoignages respectifs. Mais cette période de mise à part forcée a été pour eux, chacun à sa façon, l'occasion de faire un pas décisif pour se tourner vers Christ. Sujet de joie pour nous, bien sûr. Et aussi encouragement pour tous ceux qui ont prié avec ardeur et persévérance pour que Dieu touche des cœurs dans cette période. Nous croyons qu'il y a encore des âmes qui peuvent être touchées par l'action puissante du Saint-Esprit et attirées au Seigneur, surtout si nous luttons dans l'intercession, dans la foi, dans la louange avec persévérance. Tout au long de ce nouveau confinement, où il est certain que Dieu veut encore accomplir une œuvre excellente de salut et de bénédiction. Une petite réflexion avant de commencer notre prédication à propos du prophète Jonas et du coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du prophète Jonas et du coronavirus ? Ce qui est interpellant lors de notre lecture du livre de Jonas et qui nous fait établir un lien avec la crise du coronavirus, c'est la fin de l'histoire de Jonas au chapitre 4. Nous y rencontrons un prophète fâché parce que le jugement divin sur Ninive tarde à venir. Et ce n'est pas tout. Son bien-être personnel avait à ses yeux une plus grande importance que le salut des plus de 120 000 habitants païens de Ninive. Et c'est pourquoi il s'est construit dans un premier temps une cabane, non pas pour respecter la distanciation sociale, mais pour se mettre à l'abri du jugement. À son ombre, dans cette quarantaine librement choisie, il se sent plus à l'aise que sous le soleil brûlant d'Assyrie. Par-dessus tout, Dieu a fait pousser, dans cet exil librement choisi de Jonas, un ricin, pourvu de grandes feuilles, ce qui fait que le prophète profite encore d'une meilleure ombre. Et aussitôt, dans cette bulle de bien-être, son thermomètre émotionnel se met à grimper, quittant la zone glaciale pour s'élever vers celle des sentiments bien tempérés. Alors que Jonas profite pleinement du confort de son cocon et qu'il ressent une distance spirituelle suffisamment grande par rapport aux païens de Ninive, il continue d'attendre le jugement de Dieu. Mais ce n'est pas le feu du ciel qui tombe sur Ninive. Le soleil va frapper de plein fouet la tête du prophète, car Dieu a fait sécher cet arbre avec son ombre par un vent chaud venu de l'est. En dépit des températures extérieures élevées, le thermomètre émotionnel du prophète retombe aussitôt dans les zones glaciales. Pire, sa bulle confortable étant détruite, Jonas est exposé sans protection à la chaleur. Il se met en colère, veut mourir. Il est davantage préoccupé par le ricin desséché et son propre confort que par le salut des habitants de Ninive. Or, cette crise du coronavirus a subitement changé beaucoup de choses dans nos états prospères de l'Occident. La médecine, tellement développée, pour laquelle nous sommes reconnaissants, n'a pas encore trouvé la parade universellement valable contre la Covid-19, ce qui peut s'avérer très douloureux pour les malades concernés, pouvant aller jusqu'à la mort. Dans ces circonstances, nous n'avons pas seulement pris conscience de la fragilité de la santé, de la vie, les retombées économiques des mesures sanitaires ont aussi mis en évidence la précarité de notre prospérité que nous pensions assurer. De plus, subitement, c'en était fait aussi de la liberté de réunion de l'Église de Jésus que nous avions pensé acquise. Sur le plan personnel, nous risquons le découragement à cause de la crise sanitaire. Face à la perte éventuelle de notre ricin et de son ombre, nous commençons à maugréer, comme Jonas près de Ninive. Qu'est-ce que Dieu avait voulu dire à Jonas au travers de l'assèchement du ricin ? Jonas était plus préoccupé par son propre bien-être que par le souci de Dieu pour les perdus. Il était en colère à cause de la perte de sa bulle de confort, laquelle il devait à la seule bonté de Dieu, et nous. Les perdus qui nous entourent, ne les avons-nous pas repoussés loin de nos yeux à cause de notre bien-être et de dizaines d'années de liberté religieuse ? Certes, il nous arrive de penser à eux dans nos prières, mais généralement nous sommes principalement préoccupés de nous-mêmes, de notre bien-être. L'impiété qui augmente, atteint des proportions rarement vues, nous a-t-elle poussé à implorer la grâce et la rédemption pour les perdus face au jugement divin qui vient ? Ou souhaitons-nous pour eux le châtiment de Dieu tout en nous consacrant, satisfaits de nous, à notre vie, dans notre bulle de confort ? Et qu'en est-il de l'Église de Jésus persécutée et souffrante ? Une comparaison avec les habitants de Ninive serait tout à fait déplacée. Je voudrais plutôt attirer votre attention sur notre bulle de confort qui commence à se craqueler, notre vie à l'ombre protectrice, entre guillemets, qui menace de s'évanouir. Nous avons peut-être prié parfois pour les chrétiens en détresse, mais leur situation difficile a-t-elle été un constant fardeau sur nos cœurs? Et que dire des nombreuses régions de notre globe frappées par les guerres et les catastrophes? Ce genre d'information a pu nous émouvoir et bouleverser à l'occasion, mais nous sommes rapidement retournés à notre riz sain pour le combler de nos soins complaisants. Est-ce que nous prions qu'au travers de cette angoisse du virus et de la déstabilisation, des personnes puissent venir au salut? Ou est-ce que nous prions seulement pour que tout roule à nouveau pour nous comme avant? Quand Dieu a fait péricliter la bulle de bien-être de Jonas, les yeux du prophète ont pu à nouveau s'ouvrir sur les intérêts de Dieu et sa miséricorde. Que nous puissions voir la crise du coronavirus sous cet angle. Notre univers de bien-être fallacieux, notre vie d'enfant gâté par la prospérité à l'ombre protectrice, commence subitement à faner. À travers ces changements, les fardeaux du Seigneur Jésus devraient à nouveau devenir nos fardeaux et nous sortir de notre isolation et l'obsession de nos intérêts propres. Ne parlons pas seulement du jugement à venir en étant préoccupés par nos propres intérêts, mais faisons tout afin que des âmes soient sauvées. Dans le souci de souligner l'importance du grand ordre de mission de Matthieu 28, Hudson Taylor parlait du dernier ordre du ressuscité. Le dernier ordre du ressuscité. Le livre de Jonas se termine sur la réponse de Dieu à Jonas. Nous pouvons supposer que Jonas a changé suite à l'action aux paroles de son Seigneur. Sa place au soleil a contribué à ce qu'il voit les choses à nouveau dans la bonne lumière, de la bonne façon. À la fin, la chaleur brûlante du vent d'Est a probablement allumé un nouvel amour ardent pour les perdus dans son cœur, faut-il l'espérer au moins. Les habitants de Ninive s'étaient repentis. Après cela, l'histoire nous apprend que 150 années allaient encore s'écouler avant que les générations suivantes ne tombent à nouveau et définitivement à cause de leur impiété sous le jugement de Dieu. C'est de ce dont nous parle le prophète Amos. Quand nous observons les signes du temps, il semble que nous n'ayons plus autant de temps devant nous. Tout nous fait croire que Jésus reviendra bientôt. Apprenons donc la leçon de Jonas que la parole de Dieu nous dispense. Amen. Voilà, et nous ouvrons maintenant la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Et nous lisons au verset 11, mais avant cela, remettons la suite de ce moment dans la prière. Nous te bénissons, notre Seigneur, à cause de tes bontés, à cause de tes grâces envers nous, parce que nous pouvons vraiment dire que jusqu'à présent, tu nous as secourus. Et nous voulons vraiment considérer cela avec reconnaissance. Et même si autour de nous, eh bien, il y a toutes sortes de paroles alarmistes, toutes sortes de faits qui peuvent être dérangeants, inquiétants, déstabilisants, eh bien, Seigneur, nous, c'est à toi que nous voulons regarder. C'était tes promesses, ce sont tes assurances que nous voulons considérer. Et nous savons que c'est de cette manière-là que nous serons véritablement soutenus, guidés et conduits dans le bon chemin. Merci, Seigneur, pour la bonne œuvre que tu fais aussi dans nos vies par ta parole. Amen. Luc 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Voilà, nous sommes là dans les quelques heures qui précèdent la crucifixion de notre Seigneur Jésus. C'est le dernier jour, le jour de sa mort. Vous savez, on dit « l'habit ne fait pas le moine ». Mais il est vrai malgré tout, que souvent les vêtements trahissent quelque chose du caractère d'une personne, de ses particularités, de ses préférences. Voulons parler aujourd'hui des vêtements de Jésus au jour de sa mort, les vêtements qu'il a portés et les vêtements qu'il a eu à porter. Et vous vous apercevez, l'Écriture nous dit qu'il y en a eu sept différents. Et c'est vrai que c'est un sujet de méditation duquel nous pouvons tirer toutes sortes de bonnes choses. Alors il existe bien sûr des gens riches, influents, qui peuvent s'habiller très simplement, de sorte qu'un regard rapide porté sur eux peut donner une fausse impression. Mais nous voyons bien que par exemple, les stars, les vedettes, ne reculent pas devant la dépense pour se procurer bien souvent des habits très chers, spectaculaires, afin de contribuer à leur célébrité, enfin qu'on parle d'eux. Alors comment le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Était-il vêtu le jour de sa mort, le jour de sa crucifixion? Il est question, on nous dit, de 7 vêtements différents et il y a un message pour nous aujourd'hui. Et voici donc en premier ce fameux vêtement éclatant dont il est parlé dans le verset que nous venons de lire. Lorsque Ponce Pilate apprit que Jésus venait de Galilée et que le roi Hérode se trouvait alors à Jérusalem, alors que la Galilée était sous la juridiction de ce roi, il envoya le Seigneur à lui. Et ceci est rapporté dans le verset 6 et 7 précédant notre texte. Hérode espérait depuis longtemps voir un miracle opéré par Jésus, mais le Seigneur ne répondant pas à ses questions, comme c'est dit au verset 9, ne faisant aucun miracle, son intérêt premier pour la personne de Jésus se changea soudain en mépris et en moquerie. Ainsi est-il dit au verset 11, Hérode avec ses gardes le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui, l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. D'autres versions parlent d'un vêtement blanc, d'un vêtement éclatant ou d'un manteau royal. Visiblement, Hérode voulait livrer la revendication de Jésus à la royauté à la raillerie du peuple. Car peu de temps auparavant, Jésus avait répondu à la question de Pilate « Es-tu le roi des Juifs ?» Par ces mots, « Tu le dis », c'est au verset 3. Tout le Sanhédrin, c'est-à-dire les membres du tribunal suprême des Juifs, avaient entendu cela, et ces mêmes hommes accusaient maintenant Jésus auprès d'Hérode, certainement aussi à cause de sa déclaration concernant le roi des Juifs, donc, comme on l'a vu au verset 3 et au verset 10. Et par ce vêtement éclatant, Hérode l'a livré à la moquerie du peuple. Ainsi, Jésus a été ridiculisé pour ce qu'il était en réalité, le roi des Juifs. Et quelque chose de comparable s'accomplit de nos jours. D'innombrables émissions, publications sur Jésus traînent la vérité sur sa personne dans la boue. On n'a jamais touché à aucune religion autant qu'au christianisme, quoi que les médias puissent nous dire en ce moment. Dans la réalité, ce ne sont pas les caricatures qui sont les pires, mais c'est la réaction qui peut être, la réaction religieuse qui peut être compliquée. Et cela parce que le message de l'évangile de Christ est la vérité et une vérité qui dérange. Derrière tout cela, il y a le père du mensonge, le diable, qui combat la vérité par tous les moyens. Un ancien juge et avocat général aux États-Unis, dont les écrits ont quelquefois infléchi les décisions de la Cour suprême américaine, a fait la remarque suivante. La plupart des gens, aujourd'hui, veulent que ce qui est anormal soit normalisé et que ce qui est normal devienne anormal. La Bible a prédit longtemps à l'avance que des jours viendraient où les hommes appelleraient le mal bien et le bien mal. C'est dans Ésaïe 5, verset 20. Aujourd'hui, bien des esprits libéraux, entre guillemets, affirment par exemple que le mariage traditionnel n'est qu'un carcan étouffant et démodé. Or, l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage institué par Dieu demeure le seul cadre merveilleux pour l'épanouissement de la sexualité et de toutes autres bonnes choses de la famille. Dieu nous a averti que notre société deviendrait comme malade de la tête aux pieds. Là encore, c'est dans Ésaïe, mais au chapitre 1er, du verset 2 au verset 10. Les modes de vie actuels sont tellement orientés vers la perversion de la sexualité, la violence, l'anarchie, que les relations normales, le respect des lois, la valeur de la vie humaine sont battues en brèche de toutes parts. Depuis l'entrée du péché dans le monde, l'homme s'est toujours opposé à Dieu, pour contrecarrer les institutions que le Créateur a établies avec une sagesse parfaite. Les chrétiens ont le devoir de rester séparés de tout ce qui constitue une désobéissance aux lois divines. Lorsque la parole de Dieu déclare « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde » dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, elle met les croyants en garde contre les convoitises, les plaisirs du monde qui sont en opposition avec l'amour, la paix et la joie que l'on trouve auprès de Dieu. Ce vêtement éclatant signifie aussi que le Seigneur a pris sur lui tous nos péchés, notamment ceux dont l'homme aime bien se revêtir, qui peuvent avoir de belles apparences même, mais qui ne le rendent pas plus heureux pour autant. Des vêtements splendides, magnifiques, des ornements précieux, l'homme tient beaucoup à se montrer à son avantage. Mais la plupart du temps, il cache son égoïsme, son orgueil, sa soif illimitée de pouvoir et toutes sortes de mauvaises actions. Le vêtement éclatant est destiné à camoufler la misère et la nature pécheresse de l'homme. Cela peut aussi, ce vêtement éclatant, nous faire penser par exemple aux blouses blanches des chercheurs. Les blouses blanches des chercheurs qui s'attachent à cultiver une réputation de rigueur, de désintéressement, d'honnêteté, de dévouement à l'intérêt général. Mais bien souvent, qu'en est-il au niveau de la réalité ? Dans le journal Le Monde, dans la rubrique « Sciences et médecine », le professeur, le médecin, chercheur Philippe Frogel a dit la chose suivante. Pour sauver la science des mauvaises pratiques, une mobilisation internationale et une sensibilisation des jeunes chercheurs est indispensable. Et son article a pour titre « Prévenir la fraude, dopage des scientifiques ». Je vous livre quelques extraits de cet article. Tout comme le dopage dans le sport, la fraude discrédite la science, les chercheurs, et sème le doute sur l'intérêt même de la recherche. Les contribuables sont ébranlés, leurs élus sont tentés de moins financer la recherche, faute de résultats fiables et à valoriser. Des scientifiques respectés, tel l'Américain John Ioannidis, prétendent même que 85% des articles scientifiques seraient faux ou n'apporteraient rien. PLOS Médecine du 21 octobre 2014. Certes, l'incertitude scientifique et la nécessité de confirmer tout résultat expérimental sont inhérentes à la science moderne. Mais la multiplication d'affaires médiatisées de fraudes majeures laisse entendre que le mal est profond et qu'il gangrène la science. Autrefois, les tricheurs coulaient des jours heureux et il fallait vraiment en faire beaucoup pour risquer bien peu. Pour avoir remarqué dans les années 90 un résultat impossible, dans un article soumis à Nature Genetics que j'expertisais, c'est moi et non le tricheur qui a été sommé de m'expliquer. Il est rare que les revues fassent la police, car elles se comportent souvent en tabloïdes qui font des scoops sans se poser trop de questions. Pourtant, depuis 2006, et tout récemment encore, le gouvernement américain a mis en prison des fraudeurs qui avaient obtenu de manière indue des financements des agences fédérales. La fraude fausse la saine compétition entre équipes et instituts de recherche. Elle permet l'enrichissement institutionnel et personnel, par des subventions, des brevets, des promotions. Et elle fait perdre énormément d'argent, car après avoir lu ces articles frauduleux, des équipes publiques ou privées s'engagent dans des voies sans issue. Le domaine des cellules souches est tristement célèbre pour des procédés entre guillemets « révolutionnaires » jamais reproduits. Mais ces cas médiatisés ne sont que l'infime sommet de l'iceberg de la triche. La fraude ordinaire, moins spectaculaire, consiste à embellir les analyses statistiques, à oublier les expérimentations qui ne vont pas dans le sens attendu et à manipuler de manière numérique les images, les expériences pour les améliorer ou les recycler dans une autre étude sans perdre le temps à refaire les expériences nécessaires. Ainsi, on publie plus vite et dans un meilleur journal que les concurrents. Car les résultats sont plus propres et vont sans ambiguïté dans le sens de l'hypothèse initiale du chercheur, dont la carrière va ainsi s'accélérer. Celui-ci ne pense pas que c'est un grand crime, car cela ne change pas la conclusion générale de son étude. Tout comme le cycliste Lance Armstrong se dopait tout en étant sûr d'être de toute façon le meilleur. Tout cela était indétectable jusqu'à ce que l'accès grâce à Internet à tous les articles scientifiques permette de comparer minutieusement les études d'une même équipe sur une longue durée. Ce travail de fourmi, publié sur des sites spécialisés anonymes comme PubPeer, démontre que des scientifiques célèbres utilisent plusieurs fois les mêmes images expérimentales après quelques modifications numériques et en changeant l'interprétation. Comme pour le dopage, comprendre pourquoi la compétition exacerbée et le stress des jeunes chercheurs, le fameux « publish or perish », peuvent conduire à la fraude, ce n'est ni l'accepter ni l'excuser. Il faut vaincre le mal à la racine en éduquant mieux les jeunes chercheurs. Tout comme dans le sport, la fraude résulte d'un état d'esprit cynique dans certains laboratoires, de la course sans éthique vers le résultat rapide et la gloire à tout prix, au mépris de la vérité scientifique. Hélas, les patrons des fraudeurs sont souvent complices de la triche de leurs jeunes collègues, quand par âpreté au gain, ils les incitent implicitement à frauder ou quand ils ferment les yeux devant des résultats douteux qui les arrangent bien. Claude Bernard nous avait prévenu, il y a 150 ans, ne tombez jamais amoureux de votre hypothèse. Au contraire, cherchez à la réfuter et non à la conforter. En réalité, les enjeux financiers et les nécessités de carrière poussent les chercheurs à tout faire pour prouver la validité de leur hypothèse. Dans le sport de haut niveau, la triche fausse le spectacle et frustre le public d'une compétition honnête. L'enjeu de la fraude scientifique est tout autre. D'une certaine façon, c'est l'avenir du genre humain qui est en jeu. Voilà, on arrête là notre article. Mais ainsi, on peut quand même voir combien facilement, fréquemment, les hommes tombent dans la triche, dans le mensonge, dans le vol, dans la tromperie, à cause des tentations auxquelles ils se laissent aller, l'amour de l'argent, la recherche de la gloire et du pouvoir. L'Écriture nous dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et ainsi peut-on réaliser aussi combien il est plus que jamais nécessaire que Jésus soit mort sur la croix pour les péchés du monde, en particulier pour ceux qui se cachent sous une belle apparence, mais qui s'aggravent encore ainsi par leur hypocrisie et leur dissimulation. Combien il est nécessaire de passer par la repentance et la foi pour que l'œuvre de pardon et de purification s'opère par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce vêtement blanc couvrant l'hypocrisie, cet habit éclatant là pour neutraliser l'odeur nauséabonde des culpabilités passées et cachées. Le manteau royal là pour affirmer la continuation du règne de l'être humain qui est pourtant, nous le voyons, si peu fiable et si vulnérable. Jésus a revêtu tout cela. Il l'a pris sur lui. Il l'a porté et c'est vrai que de cette manière aussi, le Seigneur veut accomplir son œuvre de salut dans les vies. Amen. Et puis nous avançons et regardons dans Matthieu 27, au verset 26. Il nous est expliqué que, après que Pilate ait fait fouetter Jésus, il est marqué « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. » Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Versets 27-28. D'autres versions parlent d'un manteau de pourpre ou d'un manteau rouge. Il s'agissait donc de ce manteau que les soldats portaient et c'est un tel vêtement qu'on mit sur Jésus. Ce que les soldats faisaient inconsciemment, par moquerie ou par mépris, parle dans un sens profond du but du sacrifice de Jésus. Parce que le rouge, le manteau pourpre du soldat nous rappelle le sang qui a été répandu en abondance sur la terre lors d'innombrables guerres avec leurs nombreuses victimes innocentes et leurs atrocités sans nom. Cela nous remet en mémoire que l'homme ne s'entend pas avec ses semblables, qu'il y a toujours conflit entre eux. Pensons aux attentats, à la violence, aux abus de pouvoir, aux injustices, aux assassinats, aux jeux vidéo pleins de violence, à l'imagination meurtrière des humains. Ce rouge nous parle des conflits à grande échelle entre les peuples et de ceux à petite échelle, dans les familles, le voisinage, les collègues, etc. La tunique de couleur pourpre symbolise la haine, la vengeance, les représailles violentes, l'exercice de la tyrannie, avec tous ses excès sanglants et cruels. Elle exprime encore que l'homme ne compte pas pour ses semblables, qu'il est trop souvent un loup pour l'homme. Et comme nous devrions toujours garder devant nos yeux la gravité et la culpabilité qui s'expriment au travers de ce manteau pourpre. L'Écriture nous dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Êtes-vous sûr de ne jamais avoir enfreint ce commandement? Certes, vous n'avez pas pris un couteau ou un fusil pour aller tuer votre voisin, encore moins pour attaquer votre frère ou votre sœur en Christ. Pourtant, la Bible nous apprend trois choses au moins. La première, c'est que colporter de fausses rumeurs, c'est l'équivalent d'un meurtre. Dans Lévitique 19, au verset 16, il est marqué « Ne répandez pas de calomnies sur vos compatriotes. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. » David a dit « Les méchants aiguisent leur langue comme une épée. » Dans le psaume 64, verset 4. Et l'apôtre Jacques nous rappelle, dans son épître, au chapitre 3, verset 8, « Personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est pleine d'un poison mortel. Les rumeurs peuvent tuer. » Littéralement, nous avons entendu parler de gens, sains d'esprit et équilibrés, acculés au suicide à la suite de fausses rumeurs colportées sur eux. Maurice Mandel a déclaré « La médisance est un microbe extrêmement virulent, causant souvent la mort. Elle n'a ni jambes ni ailes. Il est constitué presque entièrement de fausses rumeurs qui, la plupart du temps, disposent d'un dard empoisonné et mortel. » La deuxième chose que nous rapporte l'Écriture, c'est que s'emporter contre son frère ou sa sœur, c'est aussi l'équivalent d'un meurtre. Nous pourrions lire Matthieu chapitre 5, versets 21 à 25. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit cela. Et puis on nous dit encore une troisième chose, c'est que nous ne pouvons pas faire cohabiter dans notre palais, sous notre palais, une langue prête à louer Dieu et une autre prête à médire de nos compatriotes du royaume de Dieu ou à les critiquer. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, est-il dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 1. Quelqu'un a dit, la parole est la drogue la plus puissante utilisée par les hommes. Choisir ses paroles est d'une importance primordiale. Prenons exemple sur Alan Redpath, qui explique « Dans l'une des églises dont j'ai été le pasteur et qui traversait une période difficile, j'ai un jour formé un groupe dédié à l'encouragement mutuel. » Il met ça entre guillemets. Les membres devaient s'engager à suivre une formule simple avant de prononcer le moindre commentaire sur un sujet controversé ou la moindre critique à l'encontre de quelqu'un. Cette formule s'appuyait sur 5 questions. Ce que je vais dire, premièrement, est-ce vrai? Deuxièmement, est-ce utile? Troisièmement, est-ce encourageant? Quatrièmement, est-ce nécessaire? Cinquièmement, est-ce motivé par l'amour? Si je ne peux pas répondre oui à l'ensemble de ces questions, mieux vaut que je ne dise rien. Je vous assure que ce groupe connut un beau succès, dit Alan Redpath. Donc. Souvenez-vous, nous serons jugés par Christ sur toutes les paroles que nous aurons prononcées, comme il est dit dans Matthieu chapitre 12 et au verset 36. Et Jésus a voulu prendre encore sur lui notre culpabilité, et il l'a fait, car telle était sa mission. Toutes les relations conflictuelles entre les peuples, toutes les guerres entre les hommes, toute la haine, chaque meurtre, Jésus s'en est chargé. Et c'est ce qui doit représenter pour nous la tunique pourpre d'un soldat dont il a été revêtu. Et nous voici à notre troisième passage à ce sujet, ce sont les vêtements personnels de Jésus. Dans Matthieu 27, au verset 31, il est écrit « Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. » Les vêtements personnels de Jésus étaient faits par des hommes, pour des hommes. Ils étaient extrêmement simples. Leur tissu était tout ce qu'il y a de plus terrestre, et Jésus les porta tout au long de sa vie. Cette tenue vestimentaire, il était Dieu quand il l'enfila, mais il s'y est glissé exactement comme un homme. Jésus s'est en même temps glissé quelque part dans notre peau, et il a revêtu notre humanité. Un naturaliste reconnaissait volontiers la signature du Créateur dans tout ce que son microscope lui faisait découvrir, mais une chose le tourmentait. Comment le Dieu qui avait créé les merveilles de l'univers avait-il pu se faire connaître à l'humanité? Un jour, alors qu'il se promenait à la campagne, il s'arrêta devant une fourmilière. Elle était couverte d'une nuée de fourmis qui se montraient très agitées dès que son ombre les recouvrait. « Si ces fourmis savaient combien je m'intéresse à elles, pensa-t-il, elles ne se tourmenteraient pas de ma présence. » Poursuivant le cours de ses pensées, il se demanda si l'homme pourrait jamais communiquer ses sentiments à des fourmis. Non, décida-t-il, car pour le faire, il faudrait que l'homme devienne une fourmi. Soudain, une idée lui traversa l'esprit comme un éclair. C'est ce qui s'est passé pour nous. Le Dieu qui a créé ce monde devait devenir un homme pour que les hommes puissent le connaître et partager ses sentiments et ses pensées. En effet, Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris notre nature pour traduire dans notre langage ce qui autrement serait resté incommunicable. « Celui qui m'a vu a vu le Père », disait-il dans Jean 14, au verset 9. « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui veut le révéler », Matthieu chapitre 11, verset 27. Ses paroles et sa conduite ont parfaitement révélé Dieu aux hommes, afin qu'ils le connaissent, lui, le seul vrai Dieu, est celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Les vêtements personnels de Jésus nous parlent de son incarnation comme homme. Ils nous disent qu'il veut réaliser, accomplir notre humanité. Quand nous l'invitons à le faire, il vient vivre en nous l'espérance de la gloire. C'est dans Colossiens 1, verset 27. Ces vêtements deviennent le symbole de la rédemption. Quatre soldats se les sont partagés. D'après Jean 19, au verset 23. Les vêtements de Jésus, qui furent cloués à notre place sur une croix, sont devenus pour nous les vêtements du salut, comme il est dit encore dans Ésaïe, chapitre 61 et au verset 10. Et tout ceci nous amène à un quatrième vêtement, c'est la tunique, la fameuse tunique. Et là, nous lisons, dans Jean, chapitre 19, « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Versets 23 et 24 de ce chapitre 19 de l'Évangile de Jean. Il est dit expressément que ce vêtement était fait d'une seule pièce, sans couture. Or, l'habit du souverain sacrificateur en Israël se présentait de la même façon. Dans Exode 28, au verset 31, l'ordre de Dieu est le suivant. « Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. » La différence consistait en ce que le souverain sacrificateur portait cette robe au-dessus, mais que Jésus l'avait en dessous. Et le sens est profond. Jésus-Christ est le vrai souverain sacrificateur caché à ce moment-là. Il est venu ici-bas comme fils de Dieu, s'est comporté dans ses faits et gestes comme Messie d'Israël. Mais en plus, il est l'éternel souverain sacrificateur de son peuple. Et c'est quand il est mort comme l'agneau de Dieu pour les péchés des hommes qu'il s'est révélé à la fois comme le grand sacrifice et en même temps le grand sacrificateur qui pouvait l'offrir parfaitement. Nous pouvons donc aller à lui avec toute notre culpabilité. À lui, le Seigneur crucifié et ressuscité pour nous. Il prie pour nous, nous représente comme avocat auprès du Père Céleste. Il défend parfaitement notre cause face aux accusations du diable, du monde et de notre conscience coupable. Son sacrifice a une pleine valeur devant Dieu, dans l'opinion de Dieu. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. La tunique de Jésus étant sans couture, cela signifie encore que sa sacrificature n'est pas divisible. Elle est pour lui seul. Elle est d'une seule pièce, indéchirable et indétricotable. Cette sacrificature ne peut être partagée avec aucun autre rédempteur, avec aucune soi-disant co-rédemptrice, ni avec une religion, quelle qu'elle soit. Lui seul est l'éternel souverain sacrificateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme nous le rappelle la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2 et au verset 5 et 6. Et ceci nous amène à notre cinquième point, c'est-à-dire le linge autour des reins. Quand, avant la crucifixion, on lui retirait ses vêtements, Jésus, sur la croix, ne portait plus qu'un linge autour des reins. Il était quasi nu. Il est écrit dans le psaume 22, au verset 18, « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Darby traduit ainsi la dernière partie du verset 18. « Ils me contemplent, ils me regardent. » La nudité représente le péché, la honte, le péché originel. Depuis Adam, nous sommes tous nés dans le péché. Nous venons nus dans ce monde. Dans Genèse 3, au verset 7, il est marqué à propos d'Adam et d'Ève. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam dit à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » C'est dans le verset 10. Et Dieu lui demande alors, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» C'est dans le verset 11. Le premier Adam prit du fruit défendu en Éden, il devint dès lors pécheur, et ce péché passa à tous les hommes. Le dernier Adam, Jésus-Christ, a été cloué sur un bois où il a été fait péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus prit sur lui la culpabilité de la chute dans le péché pour pouvoir éliminer la culpabilité de l'homme et le délivrer du châtiment éternel que mérite le péché. Ainsi, pour celui qui vient à la croix, qui croit en Jésus, non seulement ses péchés sont pardonnés, mais la racine du péché qui est en lui dès sa conception l'est également. Dans la ville de Lübeck, en Allemagne, se trouve une belle église, très ancienne. On peut y voir un tableau de la crucifixion peint par Hans Memling au XVe siècle. Ce tableau est très vivant. On y voit une foule de personnages pêle-mêle, des cavaliers armés de lances, des soldats qui tirent au sort pour se partager les vêtements de Jésus, des visages moqueurs, d'autres empreints de tristesse, certains même en pleurs. Au-dessus de ce spectacle se dressent trois croix. Avec un peu d'attention, on découvre un détail surprenant. Au milieu de cette cohue, au pied de la croix de Jésus, il y a une place vide. Quelle était l'intention du peintre? Qu'a-t-il voulu exprimer? Se réservait-il cette place à proximité de Christ? Ou bien voulait-il dire « Ici, au pied de la croix de Jésus, il y a une place libre, tu peux la prendre si tu veux. » Prendre la place libre, c'est croire ce que dit l'Évangile. Accepter que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Il a été notre remplaçant quand il a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Oui, il y a eu une place libre pour moi au pied de la croix de Jésus. Et par là, une place libre auprès de lui dans le ciel. Alléluia. Pour vous aussi, une place est toujours libre. Voici la parole prononcée par un dentiste. Lorsque, ça peut arriver peut-être pour même plusieurs d'entre nous, lorsque son patient s'est assis sur le siège et s'est raidi en entendant la fraise qui allait commencer le traitement du canal d'une dent, il était prêt au pire. Et le langage de son corps, l'expression de son visage dévoilait son appréhension et le dentiste l'a regardé et lui a dit en souriant « Ça va aller, essayez de vous détendre. » C'est pas facile ça, hein. C'est très difficile en fait d'essayer, parce qu'essayer ça exige des efforts, et se détendre ça exige une absence d'efforts. Hein. Essayer et se détendre ne semblent tout simplement pas aller ensemble, pas seulement sur la chaise du dentiste, mais également dans le domaine spirituel. Dans le psaume 46, le Seigneur dit au verset 11 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Arrêtez. Et c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'arrêter, nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin d'arrêter et nous avons besoin de savoir. Parce que trop souvent, dans notre relation avec Christ, nous sommes là comme sur le siège du dentiste. Nous cherchons nos propres intérêts immédiats et la chose la plus difficile à faire, c'est d'essayer de se détendre, de véritablement faire confiance à Dieu pour l'issue de nos épreuves. Lorsque notre cœur est anxieux, ce verset nous rappelle que nous devons arrêter et savoir. Arrête-toi, mon ami, mon frère, ma sœur, au pied de la croix de Jésus. Détends-toi, confie-toi en lui pour qu'il puisse te décharger, te libérer du péché, mettant dans ton cœur la paix et la joie que ce monde ne connaît pas. Amen. Et si nous avançons encore maintenant, nous avons ces fameuses bandes de lin. Il est écrit en effet dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean, verset 40. Là, je vous lis notre transcription. C'est paroles vivantes, c'est une transcription donc, mais ça présente quand même un intérêt. « Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, en les saupoudrant d'aromates, comme il est d'usage chez les Juifs d'ensevelir les morts. » Voilà. Le lin, nous le savons, était prescrit pour les vêtements sacerdotaux. On retrouve ça par exemple dans Lévitique, chapitre 6 et au verset 3. Les tapis, les voiles, les rideaux du tabernacle étaient également faits de lin. On voit aussi ça dans Exode 26, dans 1 Chronique 15. Et plus tard, quand Jésus fut ressuscité des morts, il est dit « Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. » C'est dans Jean chapitre 20, versets 6 et 7. Jésus a été déposé dans une tombe, enveloppé de bandes et de linge, de lin qu'il a abandonné à sa résurrection. Et ceci nous rappelle combien il a correspondu à toutes les exigences de la loi de Moïse. Il est l'accomplissement de la loi, comme il est marqué dans Matthieu 5, au verset 17. Et tout individu qui lui appartient est ainsi rendu parfait en lui par rapport à toutes les exigences de la parfaite loi de Dieu. Amen. Enfin, le fameux linge mis sur la tête de Jésus, et là je relis simplement dans Jean 20, la deuxième partie du verset 6 et le verset 7. « Il vit les bandes qui étaient là à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié, ou plus exactement, on pourrait dire roulé, dans un lieu à part. Ce linge, qui lui aussi avait été saupoudré d'aromates, qui avait amoureusement été enroulé autour de la tête de Jésus, Cette tête ensanglantée par la couronne d'épines, cette tête bénie qui avait manifesté tout particulièrement l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Mes amis, quelle importance dans la tête ? Jésus-Christ lui-même n'est-il pas appelé la tête du corps de l'Église ? N'est-ce pas la tête qui commande tous les autres membres du corps ? Oui, c'est dans la tête que se passe le plus important. C'est au niveau de la tête que se prennent les décisions qui engagent l'être et toute son existence. Et si ce linge nous est dit comme « rouler dans un lieu à part », c'est aussi pour insister sur la spécificité de notre tête. C'est vraiment un lieu à part. Personne n'y a accès, sauf nous-mêmes, si nous en décidons ainsi. Et Dieu, bien sûr, en tant que créateur, en tant que providence. Et, mes amis, que de questions nous nous posons effectivement dans notre tête. Combien qui hésitent à venir au Seigneur justement à cause de ces questions qui sont pour eux sans réponse ? Avant d'entrer dans la terre promise, Moïse déclara au peuple « Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos fils pour toujours. » C'est dans Deutéronome, chapitre 29, verset 28. Quelles sont ces choses cachées ? Ben, ce qui est caché, c'est l'avenir de vos enfants. Ne vous êtes-vous pas demandé ce qui leur arrivera, s'ils seront heureux, s'ils se marieront, auront des enfants, s'ils réussiront dans la vie, s'ils marcheront avec Dieu, etc. Une autre chose cachée, c'est la raison de nos souffrances, bien souvent. Un jour, dans notre vie, nous nous sommes tous demandé pourquoi Dieu avait permis telle épreuve, telle souffrance. Pourquoi vous étiez né dans cette famille, dans cet environnement-là, plutôt que dans un autre ? Pourquoi vous souffriez peut-être de cette faiblesse, de ce handicap, de cette maladie chronique ? Pourquoi cet accident est-il arrivé à l'un de vos enfants ? Ou pire, pourquoi a-t-il permis peut-être même que vous perdiez quelqu'un ? Et puis une autre question sur les circonstances de notre mort. En avançant en âge, nous nous posons de plus en plus souvent de telles questions. Dieu me prendra-t-il d'un seul coup ? Atteindrai-je un grand âge ? Succomberai-je à une grave maladie ? Aurai-je tout mon esprit jusqu'au dernier moment ? Et puis vous avez aussi la question du salut de ceux qu'on aime. Vous priez depuis de longues années pour que le Saint-Esprit touche un proche ou l'un de vos enfants, et vous attendez toujours de voir le jour où il ou elle acceptera Jésus dans son cœur. Et puis les événements du lendemain aussi. L'apôtre Jacques a écrit dans chapitre 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, faites des plans, oui. » Mais acceptez qu'ils réussissent ou échouent, en fonction de la volonté de Dieu, parce que l'avenir lui appartient. Et puis un sixième grand sujet d'interrogation, c'est le résultat de notre mission, de notre témoignage. Vous ne vous lassez pas de faire le bien, peut-être, sans connaître les résultats, mais seul Dieu connaît les résultats. Et puis votre progrès spirituel aussi, si on peut se poser des questions légitimes à ce sujet. Ne vous êtes-vous jamais demandé si vous avez vraiment fait des progrès spirituels depuis votre conversion ? Ressemblez-vous davantage à Jésus-Christ maintenant ? Dieu ne vous demande qu'une chose, de lui faire confiance pour toutes ces choses cachées qu'il ne vous a pas révélées jusqu'à présent. Vous savez, Jésus n'a pas dit « Venez à moi et je répondrai à vos questions ». Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et comment nous donne-t-il du repos ? Eh bien, en nous révélant certaines promesses, justement, qui concernent ces divers points dont nous avons parlé, sur lesquels nous pouvons ainsi revenir. Concernant l'avenir de vos enfants, Dieu veut tenir ses promesses, qui sont là, qui sont bien réelles. Dans Ésaïe 59, au verset 21, il est écrit « Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et à toujours. » Voilà ce que veut Dieu. Dans Actes 2, verset 39, nous lisons encore « C'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin. » Voilà. Ensuite, concernant la raison de vos souffrances, l'apôtre Paul nous dit, là les promesses aussi, « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. » C'est dans Romains 8, verset 18. Et un autre passage encore, il nous dit « Nos détresses, du moment, sont légères par rapport au poids éternel de gloire qui nous est préparé ainsi, dans 2 Corinthiens 4 et au verset 17. Concernant les circonstances de notre mort, disons plutôt, là encore avec l'apôtre, dans 2 Corinthiens 5 au verset 8, « Nous sommes pleins de confiance et nous préférons quitter la demeure de ce corps pour aller demeurer toujours auprès du Seigneur. » Et Paul l'a déclaré, « Pour moi, vivre c'est Christ, et la mort m'est un gain. » Philippiens 1, verset 21. Concernant le salut de nos proches, souvenons-nous que Dieu a dit « Je me suis laissé chercher par ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » C'est dans Ésaïe 65, verset 1er. « Priez le bon berger qu'il aille chercher vos brebis perdues, même si elles ne le cherchent pas pour l'instant. » À propos des événements de demain, cessez de vous faire du souci, puisque votre demain est entre les mains de Dieu. Jésus a dit « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » C'est dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Quant au succès de votre témoignage, eh bien vous en connaîtrez les détails un jour. En attendant, soyez fermes, inébranlables, progressant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Enfin, en ce qui concerne vos progrès spirituels, le travail du Saint-Esprit opère en vous de façon silencieuse mais sûre. Le résultat, il est écrit dans 1 Jean 3, verset 2, « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ainsi, nous connaîtrons ce repos promis, ce repos béni. Amen. Amen. » Qu'allons-nous décider dans notre propre tête aujourd'hui ? De suivre Christ ? De lui obéir ? De l'aimer ? Allons-nous nous laisser toucher par la grandeur de ce sacrifice d'amour dans lequel il s'est donné tout entier, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au plus profond de ses pensées, de ses sentiments, de sa conscience, de ses affections ? Considérons, mes amis, en conclusion maintenant, considérons les vêtements que Jésus a eu à porter. Le vêtement d'apparat d'un Hérode, c'est-à-dire l'orgueil de l'humanité sans Dieu. La tunique rouge d'un soldat qui représente la haine profonde et la brutalité de notre race humaine. Il a porté ses propres vêtements en nous rappelant ainsi combien il s'est fait totalement homme. À la croix, il n'eut plus qu'un linge autour des reins. Il a porté non seulement nos péchés, mais également le péché originel, la racine du mal, et nous donne ainsi la victoire sur lui. Il a aussi endossé une tunique sans couture. Il est le véritable souverain sacrificateur éternel et parfait. Dans la mort, il a aussi porté les bandes de lin qui ont été mises de côté à sa résurrection, nous rappelant combien Jésus est l'accomplissement de la loi. Et sur sa tête, il a porté ce linge qui a été roulé autour de son crâne, combien il a aimé le Père et lui a obéi de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Dès lors, tout homme, toute femme, tout jeune homme, toute jeune fille, né de nouveau, est invité à se dépouiller du vieil homme et à se vêtir du nouvel homme en Jésus-Christ. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, verset 21 et jusqu'à 24. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, nous a-t-il dit encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 14. Oui, c'est vrai. Combien la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de lui confier totalement notre vie. Car il a pour nous les meilleurs projets et il veut accomplir ses plans. Faisons-lui confiance. Il a prévu toutes choses. Vous savez, David, dans ce moment, est passé dans une catastrophe, la destruction de Tsiklag, avec toute sa famille et toutes les familles des siens qui avaient été enlevées par des pillards. Et il paraissait bien que tout était fini là, et on pouvait se poser la question comment Dieu avait permis cela. La ville de Tsiklag avait été détruite aussi. Dieu a permis, tout cela nous est rapporté dans 2 Samuel, Dieu a permis que David retrouve tout et tout le monde. Mais quand même, lorsqu'ils ont été de retour à Tsiklag, David, ses hommes, leur famille auraient pu reconstruire la ville incendiée, reprendre leur vie d'exilé. Mais la Bible nous apprend que David ne resta que 2 jours à Tsiklag. C'est dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 1er. Le plan divin était en train de se dérouler comme prévu. Le 3e jour arriva la nouvelle que Saül avait été tué dans une bataille contre les Philistins. La promesse que Dieu avait faite à David en le faisant oindre comme roi des années auparavant allait enfin se réaliser. Dieu, en fait, avait orchestré la destruction de Tsiklag pour que David retourne dans la région d'Hébron où il serait sacré roi de Juda et il régnerait plusieurs années avant de prendre Jérusalem et de devenir roi sur tout Israël. Et parfois, de dures épreuves sont nécessaires pour nous faire aller de l'avant vers la destinée que Dieu a prévue pour nous. Plus tard, la persécution força la jeune église des Actes des Apôtres à partir sur les chemins de l'exil, qui étaient aussi les chemins de l'évangélisation dans les contrées avoisinantes. Et ça, on sait toute la bénédiction qui en a résulté. Plus près de nous encore, dans notre XXe siècle, sans la terrible épreuve que le peuple juif dut traverser au cours de la Deuxième Guerre mondiale, aurait-il eu le courage et la détermination de fonder la nouvelle nation d'Israël sur la terre de Canaan ? On raconte que Theodor Herzl, donc le fondateur du sionisme, mourut déçu du manque d'enthousiasme au sein de son peuple pour la création d'un État juif, parce que beaucoup préféraient s'assimiler au peuple parmi lequel ils vivaient plutôt que de s'expatrier en Palestine. Mais 50 ans après sa mort, était déclaré le jeune État d'Israël. Dieu voit l'histoire dans son ensemble. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Faisons-lui confiance, il a tout préparé pour notre avenir. Si votre Tsiklag a été incendié, sachez que ce n'est pas un accident ni du hasard. Dieu l'a voulu ainsi pour vous faire aller de l'avant. Et son désir, c'est un désir de salut et de bénédiction pour chacun. Amen. Te remercions Seigneur, nous te bénissons encore maintenant pour ta présence, pour ton secours et pour ton soutien. Et merci parce que tu veux nous aider effectivement à nous attacher à la personne et à l'œuvre de notre bon Seigneur. Béni sois-tu Jésus, alléluia, pour cette grande œuvre de salut extraordinaire que tu as accomplie pour nous et qui est sujet de tant d'assurance et de tant de réconfort dans nos propres cœurs. Merci pour l'œuvre du salut que tu fais encore pour ceux qui ne t'ont pas reçu, mais qu'ils puissent le faire en ce jour et qu'ils puissent être aussi pleinement et glorieusement sauvé. Amen. Amen. Et bien, mes amis, mes frères et sœurs, voilà, simplement rappeler que pour l'instant, les réunions à l'église, les activités d'évangélisation sont suspendues, en tout cas celles qui concernent l'église dans son local. 3 prédications par semaine sont maintenues en ligne sur notre site, le mercredi soir pour la prière, le vendredi soir pour l'évangélisation, le dimanche matin pour le culte. Je voudrais vous rappeler aussi que le WhatsApp de l'église est activé spécialement le dimanche à 10h, pour les sujets de louange et d'adoration en particulier, et le mercredi soir pour les sujets de prière et de remerciement. Voilà, prenons des nouvelles les uns des autres, prions les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Il est fidèle, béni soit son nom. Amen.